parce que on se fait accuser ensuite. Bon, aujourd'hui, c'est le monde à l'envers, c'est que vous êtes accusé de fumer, accusé d'harcèlement sexuel, accusé de tout, de toute façon. Donc, pas les petits-enfants, pas les dames, moi je ne monte qu'avec les messieurs.
Les chiens.
Et encore, si le monsieur n'est pas plus fort que moi. Bon. Alors, c'est pour vous dire qu'on doit savoir. Et c'est tout le problème de la psychose. C'est même pour ça qu'il y a une psychose sur les fumeurs. On n'a plus le droit de séjourner les Noirs, les Juifs aux États-Unis. On a inventé les fumeurs. Et maintenant, grâce à ça, un président américain est noir. Bon, le prochain président sera fumeur. Donc, ils vont redevenir civilisés à force.
Et Kennedy prenait des amphétamines.
Oui.
Donc,
Et puis des Marilyn aussi. Il en prenait des choses. Bon, mais alors écoutez, donc Descartes, la première chose à ne pas commettre comme erreur, c'est de ne pas croire que être cartésien, c'est être aussi con que celui qui croit que Descartes, c'est la métrique. La métrique, il a écrit un livre qui s'appelle L'homme-machine, vous voyez. Même ce brave Paul Laurencin, qui est pourtant un brave gars, vraiment sympa, et par contre un peu coincé, d'accord, parce que c'est normal, il fréquente des psychanalystes. Et qui fait des bons bouquins de bien savants, du bon travail de normalien bien formé, là il bouffe la bibliothèque et il la crache très bien. Bon, il a fait un truc sur la métrie, une préface à la traduction de l'homme-machine, ou à la nouvelle édition, c'est pas une traduction, c'est une nouvelle édition. Et bien il confond, le pauvre vieux, il a un peu lu Lacan, il a même pas mal lu Lacan, et comme il ne comprend rien du tout, ça se voit dans son livre sur les phobies, hein. Dans son livre sur les phobies, le brave Laurencin. À chaque fois que Freud, parce qu'il y a toutes les citations de Freud sur les phobies, et à chaque fois qu'il prend une citation de Freud qu'il ne comprend pas, qu'il ne peut vraiment pas faire entrer dans son système, qui est pourtant pas con, qui est pourtant déjà assez sophistiqué, mais il ne peut pas imaginer qu'il faut devenir freudien et qu'il y a une coupure là, il y a quelque chose qui se passe du côté de la logique, ce que Lacan appelle la dialectique. Ce que j'ai appris dans Milner en lisant l'arrogance du présent, que c'est pas, on ne peut pas parler de la dialectique en langue française. Et c'est qui a dit ça, c'est Maurras. Peut-être que comme aujourd'hui signale que Lacan était maurrassien quand il était là à côté à Stanislas, il a été maurrassien quand il était jeune dans les années 30, ou avant dans les années 20. Aujourd'hui cite le signal, quoi. Moi ça ne me dérange pas. Il le dit dans le syndrome du Saint-Côme, il dit j'ai eu des mauvaises fréquentations. Moi les jésuites, je les connaissais très bien, les mecs dont parle Joyce, il dit moi je l'ai fait, c'est vrai, j'ai une mauvaise fréquentation quand j'étais jeune. Et bien peut-être que grâce au fait qu'il ait fréquenté des maurassiens suffisamment, il a pu faire ce qu'aucun auteur français n'a fait, c'est-à-dire tordre la langue française assez pour faire rentrer la dialectique dans la langue française. Parce qu'il écrit à Althusser, j'ai passé 20 ans à construire la dialectique. Et c'est un bonheur permanent pour moi. Je ne sais pas si aucun de ces auteurs. Les autres, ils ont tous en train de nous dire qu'ils faisaient de la psy, qu'ils faisaient de la psychothérapie, qu'ils préparaient la formation des psychothérapeutes. Pas rêvé. Donc Lacan, il construisait la dialectique, et Maurras dit on ne peut pas faire rentrer ce truc, la dégueulasse, la dialectique, ce truc allemand, dans la langue française, parce que la langue française, c'est joli. C'est il le dit très bien, Milner. Et lui, d'ailleurs, d'accepter le coup, il dit que Lacan s'est autorisé de Joyce pour tordre la langue française, et suffisamment pour faire rentrer la dialectique. Moi, je pense qu'il a réussi complètement, et Lacan ensuite a trouvé que dans Joyce, c'était vachement bien de voir comment Joyce foutait en l'air la langue anglaise, et lui, il n'avait pas foutu en l'air la langue française, mais il avait écrit un truc, bon, il y a les séminaires, vous n'avez qu'à voir un peu le type de paragraphe et de phrase qu'il y a dans le séminaire, dans l'argumentation de Lacan. C'est toujours des incises, et puis en même temps, à la fin, là, comme dans la phrase allemande, la POF, on a le verbe qui vient fermer. C'est la chaîne signifiante, c'est la structure de la chaîne signifiante. Je vais vous le montrer, ça, si vous voulez. Je l'ai montré dans S1, mais je vais vous le remontrer. Ça se ferme à la fin. On peut le fermer au milieu, mais en général, il y a une structure récurrente de chaîne signifiante, de S1. Avec un S2 qui vient porte à la fin. Et le S2, il a une autre fonction que tous les S1. Ça, dans mon livre, ça s'est très bien expliqué. c'est même pratiquement en termes de commutateur du groupe fondamental. Donc moi, mon idée maintenant, c'est de faire une théorie des ensembles des chaînes signifiantes. De supprimer l'aspect algébrique pour en écrire de manière ensembliste, pour étudier la manière dont, dont la chaîne signifiante, en fait, avec des ronds de ficelle, écrirait très bien une relation ensembliste de la théorie des ensembles de Cantor. Pour prendre au sérieux l'idée que, en quoi ça pourrait devenir une écriture? En quoi on pourrait s'en servir pour écrire des choses qu'on ne peut pas écrire autrement? Avec la fille. Donc c'est intéressant de le comparer au mathème classique, puisque la théorie des ensembles, c'est le mathème classique. Tout. La théorie des ensembles, elle permet de faire la théorie de savoir qu'est-ce que c'est que chaque lettre de la mathématique classique. Que ce soit celle-là, que ce soit I, que ce soit ça, l'intégrale, que ce soit le radical. Tout ça, ça s'explicite très bien en théorie des ensembles. La théorie des ensembles, c'est la théorie du mathème. Et ça rajoute des mathèmes que vous ne connaissez pas, comme le vide. Ça, alors là, à partir de là, plus de rituels, fini les orifices du corps qui servent à faire rentrer les idéaux. Hein, les mômes, comme dit Mélanie Klein, ils passent leur temps à faire sortir de la mer plein toute la friperie. Et les soi-disant papas, mais les mamans aussi, l'éducation, ça consiste à faire re-rentrer dans le corps de l'enfant, par tous les trous, des idéaux. Ça s'appelle rituel, ça s'appelle initiation, initiation sexuelle. Le savoir n'était accessible que par le rite sexuel de l'initiation. Avec Cantor, il s'est passé quelque chose. Il a conseillé de le dire aussi dans le séminaire, donc, coupure. Il n'y a plus d'initiation sur la planète possible. Nous sommes dans l'époque de l'enseignement. C'est pour ça que je me sens, malgré le transfert, dont je ne voudrais pas abuser, tout à fait fondé à enseigner. Et même en Argentine, j'enseigne dans deux universités. Alors ici, je suis un locataire de l'Institut catholique. Il n'y a pas une université en France où j'ai employé un type comme moi. Un type qui dit qu'il ne faut pas faire de psychothérapie et qu'il faut faire de la psychanalyse et que c'est une activité de raison, un discours tout à fait cohérent. Donc c'est juste, bon, ça oblige à faire de la langue française, d'accord ? Enfin, joli, quoi, parce que Milner le dit très bien, la pensée française, la philosophie française ne peut pas être autre chose que, eh bien, il cite à partir de Maurras, Bergson, tout ce genre-là, il le dit explicitement, la pensée française qui s'écrit en français, si c'est joli, si c'est écrit du joli français, pas du capot français comme Lacan, si c'est du joli français, c'est pédéniste. Et il m'est venu cette idée en lisant Deleuze. J'avais ce sentiment déjà un peu confus, parce que Deleuze, il est progressiste, il essayait de progressiste, tout ça. Mais je pense que c'est le plus pétainiste des philosophes de cette génération-là, autour de Foucault, Derrida, sont pas pétainistes. Ils écrivent bien. Ils écrivent du joli français. Ils peuvent pas lire Lacan, ils peuvent pas s'intéresser à Lacan. Même pas à Althusser non plus. Moi, j'aime beaucoup lire Deleuze. Pour moi, Deleuze, c'est Faulkner. Deleuze, c'est le Faulkner en langue française. Donc c'est encore mieux que Faulkner en anglais. Deleuze, c'est un mec qui s'envoie en l'air comme Faulkner, des mots et des pages qui sont magnifiques. Le mec, il est émerveillé d'écrire. Il écrit. Et Deleuze, il peut écrire. Vous voyez, il y a deux pages que j'adore dans Qu'est-ce que la philosophie de Deleuze. C'est génial. Il fait deux pages sur le percept. Et le foncteur et la fonction à propos de la proposition et du concept. Il fait un petit cours de logique, de deux pages. Il résume ce que c'est que la logique. Tous les mots nécessaires à la logique, à un exposé de logique contemporaine du XXe siècle, se trouvent là. Il y a même la paire ordonnée qu'on va retrouver là. On parle là-dedans aussi, enfin, la paire ordonnée, il emploie le mot paire ordonnée. Lisez ces deux pages, c'est pas dans la partie logique, c'est la partie où il parle du percept. Si vous ne le trouvez pas, je vous amènerai le livre la prochaine fois. Vous n'avez qu'à m'écrire, vous trouverez la page précise. Il y a deux pages, c'est extrêmement bien foutu, il y a tous les mots qui font penser que c'est. Vous connaissez toute la logique. Et son texte ne veut rien dire. Génial. C'est du flan. Mais c'est fait
Ah non, c'est pas Joyce, ça c'est écrit en langue française, il casse pas la langue française. C'est, il y a tous les mots, il y a un cours, c'est un cours magistral où il y a tout ce qu'il faut pour que l'étudiant se dise bon, voilà, ben, oui, la logique, c'est ça. Ça ne veut rien dire. Je vous mets au défi de pouvoir lire ça, de pouvoir expliquer quoi que ce soit. C'est simplement admirablement bien fait. C'est comme du Paul Laurent Assoun avec les citations de Freud. Oui. Sur les phobies. Son livre sur les phobies est très bon parce que vous avez toutes les citations de Freud sur les phobies. C'est un bon outil de travail. Mais quand il ne comprend plus, il sort le joker. Ah, c'est peut-être pour ça que Lacan dit que l'enfant phobique, il est marié avec son fait pipi, par exemple. Ça, on ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire que l'enfant dans la phobie, il est marié avec son fait pipi? C'est pour ça qu'il est angoissé. Pour ne pas comprendre ça, il faut jamais avoir été marié avec jamais aucun. Je sais pas quoi. Je sais pas avec quoi on se marie. Mais... Alors Descartes ne commettait pas l'erreur de croire que c'est la maîtrise, parce que Descartes, quand Wilhelm le dit très bien, donc c'est quelqu'un qui s'aperçoit que, avec Malebranche, si Dieu n'est pas dans le monde, il n'y a plus rien à la fois s'accrocher. On peut pas, il n'y a plus de rampe. On ne peut plus se tenir à la rampe, on risque de glisser dans l'escalier. Donc, la seule rampe qu'on trouve, c'est les mathématiques. Encore, sous un aspect pas cantorien, mais de tradition. C'est ce qui va conduire Husserl à écrire les origines de la géométrie. Et il n'en sortira pas, Husserl. Il ne va pas voir ce qui s'est passé avec Cantor et ensuite avec la topologie. Mais n'empêche que vous ne vous rendez pas compte que, déjà chez Descartes et Malebranche, c'est comme ça que ça se passe. Si Dieu n'est plus dans le monde, qu'il existe, hein, existe, comme le réel, là, à la fin de la campagne, existe, mais on ne sait pas où. Ça, c'est vraiment top la langue française de dire existe. Hein. En français, on ne dit pas existe. En allemand, c'est con, ils disent Stellung. Les anglais disent Stand. C'est vraiment des connards, ils ont une langue qui n'est pas belle. Parce que nous, on ne dit pas existe. Eh bien, on dit ça existe, ça insiste, ça consiste, mais on n'a pas un, on va pas. Comment ? Ça résiste. Ça résiste, oui, il y a du existe, il y en a plein, mais jamais on dit ça existe. Et là, quand la définition de l'existence qu'il donne, il ne suffit pas de se gargariser avec le fait qu'il ait écrit EK avec un petit I résiste, il faut voir que, il dit, dans RSI, il dit, ça existe, mais on ne sait pas où. Jolie définition de l'existence. Dieu existe. À partir de la théologie de l'existence. Dieu existe, mais on ne sait pas où. Et du coup, il ne change plus le monde. Alors, je peux faire des mathématiques. Je peux étudier avec les mathématiques. Je peux écrire en mathématiques le monde, parce que ni le monde, ni la mathématique ne va changer demain matin. Donc, on fait de la science galiléenne, keplérienne, galiléenne, cartésienne, newtonienne. Et c'est une science, donc, catholique. Parce que c'est la théologie catholique qui est devenue théologie d'existence. Et comme elle est catholique, il y a, comme l'explique très bien Kogel dans son texte sur les origines chrétiennes de la science moderne, lui il dit que c'est chrétien parce qu'il y a l'incarnation. Alors si vous ajoutez l'existence de Dieu et l'incarnation du Dieu dans le corps, vous avez là ce que dit Kogel, lui il dit que c'est chrétien parce que c'est l'incarnation. Il dit que c'est pas la Trinité. Qu'est-ce qui est caractéristique du christianisme, c'est l'incarnation. C'est pas le fait que la mère, elle a été. Il y a l'Immaculée Conception, mais à l'époque, ça valait pas grand chose. C'est très récent. La virginité de la Vierge, oui.
J'ai lu cette phrase de Lacan, je ne sais pas d'où, d'ailleurs, j'ai lu sur Internet. Le signifiant est entré dans le monde, c'est le Saint-Esprit.
Oui, vous pouvez avoir lu ça. Mais il faut regarder toujours le contexte, un métier. Parce qu'un jour, vous m'avez joué un tour, là, vous avez trouvé une phrase où il parlait d'un truc, justement pour dire qu'il le rejetait.
Ah, j'ai fait ça.
Oui, oui. Attention, vous avez utilisé dans la présence du mot dans la phrase pour dire ah, Lacan dit que. Ah, non. Bon, faites attention. Alors, bon, le signifiant, ce serait le Saint-Esprit et Dieu, c'est la Dei. Moi, je tiens que la Dei, justement, au moment où la Dei. La Dei, c'est le trauma. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, là, dans ce que j'ai écrit là sur les dessins de Lacan, c'est la Dei, c'est ça. C'est la droite infinie. Et il dit, Lacan, c'est un trou réel. Pourquoi réel? Parce que nous sommes dedans. Le trou, il est autour de la droite. Et il est tellement, pour nous, il est impensable parce que nous sommes dedans. Il nous constitue. Nous sommes constitués par le trou Nous sommes le trou. Nous sommes ce qui, nous sommes l'espace autour de l'ADI. L'ADI met en valeur l'espace. L'ADI, c'est la droite infinie. Et ce qu'il ajoute dans le synthôme, c'est que cette DI, elle peut se fermer en cercle. Et il dit, le sujet humain, c'est quoi? C'est un tort, hein, vous voyez, un moi, qui a affaire à l'ADI. Mais l'ADI, fermé comme un cercle. Hein, il dit ça à la fin, vous voulez que je vous le dise dans l'édition de Lali. J'ai le paragraphe du livre. C'est quand même vachement bien, ça. C'est dans la leçon, la dernière leçon. Voilà. On sait des choses, c'est pas dans la version de la Ligue G, c'est 168. Hein. Et vous retrouverez, c'est la leçon. Et aussi là, elle était mal indiquée, c'était le 13 avril. Il disait, c'est pas le 13 avril, parce qu'il y en a deux qui sont 13 avril. Donc c'est le 13 avril plus 7, c'est le 20 avril. Le 20 avril 1976, Lacan, il dit, on sait les choses qui relèvent du signifiant. L'ancienne notion de l'inconscient, de l'humbetang, c'était précisément quelque chose qui prenait appui de notre ignorance de ce qui se passe dans notre corps. Et ça, c'est plutôt l'inconscient, le fait qu'il y a des choses qui nous échappent du corps. C'est la vie végétative. Mais l'inconscient de Freud, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être énoncé à cette occasion. C'est justement ce que j'ai dit, à savoir le rapport. Le rapport qu'il y a entre un corps qui nous est étranger. Vous voyez ? Alors, déjà, c'est le rapport d'un corps qui nous est étranger, le corps-corps. Hein. Le corps, il y a une structure de corps. Donc, c'est ce qui se passe dans un corps, entre un corps qui nous est étranger et quelque chose qui fait cercle. Vous voyez, quelque chose qui fait cercle. Hein. Quelque chose qui fait cercle, voire droite infinie, qui de toute façon sont l'un à l'autre. Équivalent. Alors là, ils ont un peu patiné les transcripteurs. Hein. Dans Miller, c'est pire. Il a traficoté ça en inversant les phrases, en changeant l'ordre des syntagmes, pour arriver à faire un truc dans lequel on voit bien qu'il n'a rien pigé parce qu'il n'a pas fait ses dessins-là. Il faut faire ses trois dessins. Qu'est-ce qu'il veut dire là quand il dit dans l'une, l'un et l'autre à l'autre équivalente? Bon, dans l'une, à l'autre, est équivalente. La droite infinie, c'est équivalent au cercle. C'est ce que se tue à dire. C'est ce que se tue à dire, vous voyez, je mets ça comme ça, équivalent. Si vous compactifiez avec des arbres la droite infinie, vous avez un cercle. Il faut ajouter un point qu'on appelle oméga. Il suffit d'ajouter un point à la droite infinie pour fermer. Et ce point, c'est une lettre. Ça vous donnera une idée, une introduction. C'est une façon de rentrer dans l'histoire de la lettre petit a. À quoi ça sert le petit a? Vous voyez, dans le discours, là. C'est, dans le discours du maître, c'est le produit, et dans le discours analytique, c'est l'agent. Cette petite lettre, ici, elle a une fonction de compactification. Bon, voilà, c'est bien encore. Donc, c'est un corps qui nous est étranger et quelque chose qui fait cercle, voire droite infinie, et de toute façon, qui de toute façon sont l'une, l'un à l'autre, c'est ce qui est écrit à la ligne. Et moi, je vous dis que c'est ce qu'il explique un peu plus haut dans la leçon. Alors, si vous voulez, bon, si vous voulez uniquement répéter Lacan d'une manière incantatoire, vous pouvez très bien dire que j'ai tort. Hein. Moi, je n'essaierai pas de vous corriger raison. Mais vous pouvez voir quand même que, hein, par contre, sorti de mes notes, là, j'ai écrit DI. DI, ce sont les initiales. Ça veut dire la droite infinie. La droite infinie en question, hein, ça n'est pas la première fois que vous m'entendez en parler. Il en parle depuis la troisième, à Rome. C'est quelque chose que se caractérise de son équivalence au cercle. Faut quand même dire. Bon, c'est bien, bon, comme vous voyez, on lit toujours Lacan en prenant les phrases une par une. Bon, nous sommes les donjuans des phrases de Lacan. Dans le genre, Lacan dit qu'elle prend les femmes. Hein. Alors on est là à annonner Lacan, il a dit que. Alors vous avez, moi j'ai assisté, je vous dis, à Buenos Aires au colloque Convergence, 1500 personnes qui étaient là à annonner Lacan, c'est génial. Et vous entendez, bon. Ils annonnent plus Freud. Hein. Le titre du colloque c'était Inhibition, symptômes, corps. C'est quand même quelque chose, hein, de transformer angoisse par corps. Dans la série Inhibition, symptômes. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils essayent de faire du clientélisme, quand même, parce qu'ils vont proposer aux analysants de faire de la gymnastique. Je ne veux pas proposer de faire de la relaxation et de la gymnastique, du coaching, avec l'angoisse. Il
faut y mettre le corps. De qui se moque-t-on? Alors les mecs sont là, ils entendent des signifiants, vous entendez pas. Il y a des gens qui veulent paraître originaux. Ils entendent des mots qui ne sont pas dans la langue. Elle a fait un truc sur le joystick. L'investissement érotique du joystick. Le joystick, c'est un petit truc qu'on donne aux enfants pour se masturber. Non, pardon, pour jouer à la télévision. Bon. Et leur maman est contente. On leur... Des fois, il y en a même, on leur offre des gros joysticks.
Moi, je veux dire.
Vous voulez bien quoi?
Un gros.
Un gros, oui. Mais c'est, il ne faut pas faire ça aux enfants, il faut les laisser trouver tout seuls. Ce n'est pas une preuve de puissance ni intellectuelle, ni économique, ni politique que d'offrir un gros joystick à son gamin. Et pourtant, il y en a qui croient ça. Il y en a qui achètent des ordinateurs de plus en plus gros. Mais ça ne marche pas aussi bien que la voiture. Hein, c'est pour ça que même si j'ai un moteur en train de s'écrouler, ce n'est pas sûr que ce soit fini l'ère de la bagnole. Parce qu'on ne peut pas montrer son ordinateur ou son joystick à tout le quartier. Ça se fait pas. Parce que la voiture, on peut la mettre devant la porte, on la lave le samedi ou le dimanche, et tout le monde peut l'apprécier. Bon.
Oui, je m'excuse de couper cette conversation passionnante et très imaginaire.
Oui.
Alors, est-ce que vous pouvez parler un peu sur cette notion de petit acte qui compactifie l'ADN? Ah
non, pas maintenant. Non. Mais je veux bien en parler quand vous voulez. Une prochaine fois.
En maths, c'est une notion de compact.
Oui, non, mais la notion de compact qui a été construite par la topologie générale, en particulier par les mathématiciens russes.
Série d'ouvert.
Par les mathématiciens russes, surtout. C'est un théorème de Tikhonov. À ce propos. Et qui dit les conditions de la compactification. De toute façon, pour compactifier, il faut que l'espace soit localement compact. C'est-à-dire que toute partie de l'espace étant compact, toute partie propre, hein, l'espace, à ce moment-là, il devient compactifiable. Et ce que dit à ce moment-là Tikhonov et Alexandrov et tous les mathématiciens qui ont étudié ça, ils sont épatés, comme quoi ils peuvent être italiens, ils sont plus proches de pouvoir lire la pomme, ils ne le diront pas, mais enfin bon. Ils disent déjà ce qui devrait nous épater et ce qui épate la mort, c'est pour ça qu'il introduit notre GA dans la psychanalyse. Il suffit d'introduire une lettre, oméga, on ne sait pas ce que c'est, ça n'a pas de sens, c'est vraiment. Vous voyez, c'est l'objet transitionnel. Moi, je vous propose de voir que Lacan, il a vu chez Winnicott que Winnicott était freudien malgré son bergsonisme, malgré qu'il soit pétainiste, bergsonien, vitaliste. Winnicott a un lien par le moyen de Mélanie Klein avec Freud. Donc il y a des choses comme ça. Et là, quand ça ne lui a pas échappé, quand il a lu Winnicott sur l'objet traditionnel, il a dit je prends, dès le séminaire 4. Hein. Donc si vous voulez avoir un premier aperçu de ce que c'est que la compactification, lisez Winnicott. Bon, mais maintenant on pourra parler. Et alors lisez ce que dit Lacan sur la compactification dans le séminaire 20. Et moi j'ai fait. Pour l'école lacanienne, qui m'a demandé un cartel de l'école lacanienne, une mise au point sur cette. Qui m'avait valu les honneurs, les éloges de ce brave Serge Hajdoum, qui est mort l'automne dernier, malheureusement, et qui avait prouvé que c'était ce qu'il voulait faire. Moi, je lui dis que c'est pas ça qu'il faut faire des séminaires, mais je veux bien apporter une précision. Et je pense pas que ça doit aboutir à une version dogmatique et définitive du séminaire. C'est une lecture infinie. Bon, donc, vous voyez que cette histoire-là, c'est dans Lacan ici, je finis la phrase, hein, Lacan il dit, un corps qui nous est étranger est quelque chose qui fait cercle, voie droite infinie, et de toute façon sont l'un à l'autre équivalent. On sait, la droite infinie, c'est équivalent au cercle, hein, quelque chose qui est inconscient. Donc là, c'est l'inconscient. Et vous voyez que vous avez tout à fait déjà ici l'image du saint chrétien. Nous sommes tous, avec nos symptômes, avec notre inconscient, nous avons tous une petite auréole qui flotte au-dessus de nos têtes. Voilà pour le symptôme. Enfin, c'est une façon amusante de faire montrer le symptôme dans le séminaire de symptômes. Ouais, c'est l'homme saint. Et là, vous pouvez lire Peter Brand, parce que sachez que justement, Peter Brand, l'historien américain qui est un spécialiste de l'Antiquité tardive, il explique dans son livre sur la société sacrée, Scalima, traduit des articles, d'ailleurs très amusants, très intéressants, d'autres, tous sont passionnants.
Il explique que le culte des hommes saints, des saints hommes, en antiquité tardive au Moyen-Orient, dans l'église d'Orient, hein, ça se passe du côté de Damas, du côté de la Syrie, du côté de Liban, c'est une survivance des patrons romains, donc c'est la mafia. Il y a deux types de saints hommes. Ce sont soit les notables, les types qu'on vient consulter, parce que ce sont les sages. C'est les futurs députés, c'est ceux qu'on va envoyer à la ville pour défendre les intérêts du pays. Et il y a les autres qui sont des ascètes. Et c'est un peu comme les... On a un peu des choses comme ça chez les Chinois, avec les taoïstes. Les taoïstes, il y en a qui étaient magiciens, les enfants les mettaient dans la cave pour faire le sérum d'éternité. Puis il y en a d'autres qui étaient des ascètes, qui rentraient dans des grottes. Ben, les symptômes chrétiens de l'Antiquité tardive, ils sont de deux sortes. Vous avez, je vous dis, un très beau film sur un saint homme qui s'appelle Saint-Simon. Saint-Simon du désert, c'est un film surréaliste de... Et il y a des gens... Alors, il y a des gens dans un ciné-club à Buenos Aires qui ont programmé le Buñuel, parce que j'avais parlé du saint homme du Buñuel. Mais au moment, quelques mois après, quand ils ont programmé, ils ont projeté le Buñuel, les psychanalystes qui étaient là, on leur a demandé, mais pourquoi c'est très intéressant ça. On ne comprend rien, cette histoire de Saint-Simon. Ils avaient oublié ce que j'avais dit, ils ne savaient plus déjà, vous voyez, comme quoi ça s'efface vite. Je parle pour ne rien dire. Je ne crois pas que le fait de noter, ce sera mieux. Le problème, c'est. Non, c'est mieux, c'est que ça. C'est, si ça vous fait un peu rire, quand vous verrez Buñuel traiter le Saint-Simon, la tentation de Saint-Simon par la sorcière, c'est plutôt bonbon. Je vous conseille. Elle, à la fin, elle part, elle est tellement effrayée par le saint qu'elle part avec son balai comme une fusée. Bon, alors, vous voyez que Lacan, il y a une façon. Lacan, il ne se prive pas de faire des plaisanteries qui peuvent paraître infantiles. Hein? Ça peut paraître infantile de nous faire croire que. Qu'est-ce que c'est que le saint homme? C'est un corps, comme ça. C'est un corps qui a un tube. Avec deux extrémités ouvertes, hein, hop, un corps. Il explique ça dans le séminaire après, tout de suite le séminaire après ça, il explique avec ses dessins un truc qui ressemble au dessin qu'avait fait Dolto. Vous connaissez ces dessins de Dolto sur le corps des enfants? Vous ne connaissez pas ça? Ah, ça se trouve, regardez, ça se trouve dans un livre de Dolto, regardez, j'ai ça, c'est une dame qui m'a apporté ça, regardez, Dolto, elle aimait ça dans un de ses livres, vous voyez, c'est stade oral, sein. Vous voyez, vous avez la tête d'un côté, le trou du cul de l'autre. Hein? Pôle cloacal, réceptacle. Voilà, ça c'est du. Alors Lacan, il fait un truc comparable avec ecto et endo, hein, dans le séminaire qui vient juste après, qui s'appelle L'insuccès de l'utérus et la voix. Dès la première leçon, il retranscrit Dolto en termes de tort. Bouche, anus, vous voyez ici, péristaltisme, la mère support, stable, sécurisant, mère polyphalique des soins corporels, la pince et l'expulsion. Bon, c'est pas du mélanique, hein, ça c'est du François Dolto. Mère pénétrante, phallique, mamelée, bon, et de l'autre côté, c'est mère réceptacle, pôle cloacal. Bon. C'est sûrement très intéressant comme conception du monde. Ça, c'est pas très étonnant, c'est une conception du corps. Vous savez, entre le microcosme et le macrocosme, tout ça. Alors, comment prendre ces conneries que raconte Lacan à propos du corps-corps? Lisez le séminaire, sachant ça, est-ce qu'il se contente de faire des blagues pour faire des pieds de nez à Madame Dolto? Il y a peut-être un peu de ça, hein. Mais j'ai pas vu Natio se précipiter là-dessus, il a préféré nous parler des espaces limaniens, on ne comprend rien. Je ne sais pas ce que je veux dire, des espaces limaniens, en plus, c'est de la géométrie différentielle. Par contre, la compactification, c'est beaucoup plus simple. Et ça, j'ai donc donné des explications, vous trouverez ça dans le site de l'école lacanienne de Paris, hein, sur le compact. Mais on peut en reparler, parce que j'ai montré que ce que disait Lacan était, enfin, dans ce qui avait été transcrit par Miller au seuil, ça montrait au moins que Lacan avait bien vu la dualité qu'il y avait entre les ouverts et les fermés, puisque tout à l'heure vous parliez des films, des ouverts, Vous voyez, Lacan, il montre très bien qu'il a bien vu cette dualité entre les ouverts et les fermés, ce qui permet d'avoir deux définitions de la compactification. Tout ça, c'est une érudition, c'est pour montrer que ce que Lacan raconte, c'est pas complètement du pipeau. Bon,